Commençons par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons devant ta parole. Tu es la parole de Dieu vivante et la parole que nous lisons dans la Bible, que nous appelons aussi parole de Dieu, c'est une parole qui est unie à toi, qui vient aussi de toi. Et nous te prions que cette parole, que toi, Seigneur Jésus, tu puisses nous enseigner aujourd'hui, régner dans nos cœurs, nous aider à comprendre tes enseignements, à les vivre, à les transmettre à d'autres, à les enseigner, afin qu'ensemble nous grandissions dans ton amour et dans ta vérité, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu dans le ministère de Jésus, on avance chapitre après chapitre dans l'évangile de Matthieu, que Jésus, des fois, il fait son ministère sans trop gêner. Des fois, il va guérir des personnes et ça va bien. Des fois, il va faire des choses qui vont choquer. Quand il y aura un lépreux, normalement, si quelqu'un touche un lépreux, qu'est-ce qui se passe ? Il devient impur. Et donc après, il peut plus, il doit se purifier. Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il voyait un lépreux ? Il le bénissait, il le touchait et il le guérissait. Donc l'impureté n'entrait pas en lui, mais sa pureté transformait les autres. Ce qui était incroyable pour les gens de l'époque. Quand il s'est retrouvé en contact avec une dame qui avait un écoulement de sang. Un écoulement de sang, c'est aussi une impureté. Cette dame l'a touché. Qu'est-ce qu'il aurait dû se passer pour Jésus ? Devenir impur. Qu'est-ce qui s'est passé ?
La femme a été guérie.
Il y a eu une fois, il a touché une petite fille qui était morte. Quand on touche une petite fille qui est morte, qu'est-ce qui se passe ? On devient impur. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle est ressuscitée.
Et il avait fait des choses aussi que les gens n'autorisaient pas à l'époque. Il y avait des règles très strictes, des traditions qui disaient finalement le sabbat, c'est pas seulement se reposer chaque semaine, mais vous ne devez pas faire le moindre travail. Est-ce qu'il était autorisé, par exemple, de prendre un épi dans un champ et puis de manger les grains de l'épi ?
Non.
Un jour, ses disciples, c'est au chapitre 12 dans Matthieu, ils se promènent dans un champ, ils prennent des épis de blé et ils en mangent. Qu'est-ce qu'ils disent, les pharisiens ?
Ils ne sont pas contents.
Et qu'est-ce que Jésus répondra ?
Si quelqu'un, son âme, son bœuf tombe dans un puits,
est-ce qu'il ne va pas venir l'aider ? Et il dit aussi, quand David avait faim, qu'est-ce qu'il avait fait ? Voilà. Jésus, il utilise une technique qu'on appelle le calvaromer, qui est une façon de dire, si lui, il a fait ça, nous, on peut faire ça. Il a dit, si lui, il s'est permis de manger les pains qui étaient uniquement autorisés à manger par les prêtres, et que lui et ses hommes, ils ont pu en manger, c'est que finalement, toutes les traditions sont pas des absolus. Ils sont au service de la relation à Dieu, de l'amour du prochain. Et c'est pour ça qu'il y avait, si le bœuf ou l'âne qui était dans un puits, on allait le sortir. Même pour les animaux, on devait en prendre soin. Et c'est toutes ces questions-là qui choquaient. Il y a une Sandra en bas, mais c'est pas la même que sa maman. Ça, c'est sûr. Alors, là, dans toutes ces discussions, les pharisiens ont eu. Ils se sont dit, Jésus, il enseigne pas comme nous, on n'est pas d'accord. Et ils vont essayer de le coincer plusieurs fois. Et là, ils vont essayer de le coincer dans l'histoire d'aujourd'hui. Et vous allez voir comment Jésus répond. Ils vont essayer de le coincer comment ? Ils avaient une tradition qui était de laver les mains. On devait se laver les mains avant de manger. Est-ce que c'est mauvais de se laver les mains avant de manger ?
Non.
Est-ce que vous enverriez quelqu'un en prison s'il se lave les mains avant de manger ?
Non.
Est-ce que vous demanderez à des personnes de se laver les mains avant de manger ?
Non.
Pas forcément. Alors, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il y avait un plat au milieu. Et les gens prenaient avec leurs mains. Donc si moi je ne m'étais pas lavé les mains, que je prends au milieu, et que Sarah est là avec moi, et qu'elle va manger à côté de moi, est-ce que tu seras contente que je ne me sois pas lavé les mains, que j'ai de la graisse, du cambouis sur les doigts ? Non, t'espères que je me suis quand même un peu lavé les mains. Donc il y a du bon sens. Se laver les mains est une bonne chose en soi. Mais au temps de Jésus, se laver les mains était devenu une règle. Il y avait dans ce qu'on appelle la Mishnah, c'est un texte du judaïsme qui a été finalisé à la fin du deuxième siècle. On disait, pour vous laver les mains, vous devez faire comme ça. D'abord, quelqu'un d'autre doit faire couler de l'eau sur les mains. Vous les mettez comme ça. Il ne faut pas que vous les frottiez. Vous mettez des mains comme ça. De l'eau va couler de haut en bas. Il faut que ça s'arrête au niveau du poignet. si ça va jusqu'au plus tard, pas bon, c'est impur, les mains sont impures. Ensuite, ça c'est le premier coup. Deuxième coup, c'est les mains vers le bas, on fait couler l'eau vers le bas. Ensuite, avec la main droite, vous allez avoir le... ou non, je crois que c'est le poignet, je fais pas ça souvent. Hein. Donc, vous devez fermer la main et frotter la main comme ça. Et puis après, comme ça. On fait ensemble. Premier coup, on mettait les mains comme ça. L'eau descendait jusqu'au poignet. La deuxième fois, on mettait les mains comme ça. On faisait couler jusqu'ici. Troisième fois, on pliait la main droite et on frottait la main gauche contre la main droite. Et deuxième coup, main gauche en point, et on frotte la main gauche comme ça. Après, on vous disait, c'est bon, tes mains sont propres, t'as le droit de manger.
Il n'y avait pas la graisse dans ce temps-là.
Alors, il ne devait pas avoir beaucoup de graisse. À mon avis, il y avait un petit boulot. En fait, la purification n'avait pas un rôle seulement de laver, c'est souvent un aspect rituel. Hein? Donc, en général, tu t'étais lavé les mains avant, mais il y avait un aspect qui était devenu une tradition. Et pour les pharisiens, c'était très important. Hein? Un coup comme ça avec l'eau, fallait que vous ayez quelqu'un, vous ne pouviez pas faire ça tout seul. Quelqu'un d'autre qui vous lavait les mains, il ne fallait pas que ça descende jusqu'à la chemise, sinon vous étiez fichu. Là, vous aviez...
Comme ça, c'est confirmé que tu as bien lavé tes mains.
Que
comme ça, quelqu'un peut confirmer que tu as bien lavé tes mains.
Si ta chemise est mouillée?
Non, c'est la personne qui verse.
Voilà, oui, c'est le témoin. Donc, c'était comme ça qu'il faisait, et on va voir comment Jésus va parler de cette tradition. Je vais vous lire les premiers 9 versets qui nous montrent comment Jésus répond à cela. Dans ces 9 versets, vous avez les deux premiers. Les pharisiens vont se dire pourquoi ils ne se lavent pas les mains. Ensuite, les versets 3 à 6, Jésus va répondre. Il va leur dire pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu. Donc, en gros, Jésus, il leur dit, vous me parlez d'une tradition, moi je vais vous parler de la parole de Dieu. Et il va finir par une citation d'un prophète, la parole de Dieu, disant que Ésaïe a bien prophétisé. Je vous lis le texte, la parole de notre Seigneur. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Parole de notre Seigneur. Donc vous voyez, les pharisiens, eux, ils ramènent ce qu'ils considèrent comme le plus important, leur tradition. Et il faut savoir que les traditions au temps de Jésus, elles ont continué à se développer dans le judaïsme. Moi-même, je suis quelqu'un d'origine juive. Mon papa était juif, donc je dirais qu'il y a des bonnes choses. Dans le judaïsme, il y a un attachement à la parole de Dieu qui est fort. Et il y a aussi des endroits où la tradition est devenue trop importante. Comment c'est arrivé ça? Dans le judaïsme, ce qui se passait, c'est qu'il y avait les commandements de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça fait partie des 10 commandements, comme on dit. C'est vraiment le cœur de la Torah, de l'enseignement de l'Ancien Testament. Et si vous ne respectiez pas cela, il y avait une condamnation très forte. Et au temps de Jésus, il s'était dit, les rabbis, les pharisiens, il s'était dit, pour éviter cette condamnation forte, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre quelque chose qu'on va appeler une haie. On va mettre une haie autour de la Torah. Pour que les gens ne fassent pas des grands péchés, on va mettre tout plein de commandements autour. Et les gens doivent respecter ces commandements pour être sûrs qu'ils ne vont pas enfreindre un commandement de Dieu. S'ils enfreignent un de nos commandements, bon, on va les punir, mais ils n'ont pas enfreint un commandement de Dieu. C'est bien ça. Hein ? Finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire que les gens soient encore plus fidèles au commandement de Dieu. C'est une bonne chose. En théorie. Qu'est-ce qui se passe en pratique ? Dieu était celui qui veut être en relation avec les hommes et on répond à la parole de Dieu. Le commandement, c'est pas seulement un truc à faire, c'est une réponse à la parole de Dieu qui est en jeu. Donc c'est un dialogue entre nous et Dieu qui est en jeu à travers l'obéissance et la foi. D'accord ? C'est notre relation entre Dieu et nous qui est en jeu dans la parole de Dieu. Si maintenant cette parole de Dieu est remplacée par une parole d'homme qui a une bonne intention, hein ? Aujourd'hui on dit être sincère, avoir des bonnes intentions, c'est bon, mais c'est pas tout la sincérité. Encore faut-il que cette sincérité soit enracinée en Dieu. Qu'est-ce qui se passe une fois que les gens, les rabbins commencent à dire il y a cette tradition et il faut obéir à ces traditions? On obéit à la parole de qui maintenant?
De l'homme.
On obéit à la parole de l'homme. Des hommes avec une certaine autorité, mais qui n'auront jamais l'autorité de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En théorie, on voulait aider les gens à être fidèles à Dieu. En pratique, on a coupé les hommes de Dieu. Et on les fait obéir à des commandements humains en disant cette personne est un représentant de Dieu sur terre et vous devez obéir à ses commandements humains. Est-ce que c'est une bonne chose ça?
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive quand on a fait ça? Est-ce qu'on obéit à Dieu?
Non. La relation avec Dieu est coupée.
La relation avec Dieu est coupée. Il y a des gens qui disent nous sommes les intermédiaires avec Dieu. Il faut toujours passer par nous. Ils ont gagné une autorité. Mais cette autorité est humaine. Et pour qu'ils la défendent, ils la défendent avec d'autres autorités humaines. Ils vont dire, je fais ça parce que tel rabbin a dit ça. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Par exemple, pour le sabbat, il fallait que vous ne faisiez pas plus de quelques kilomètres. On appelait ça un chemin de sabbat. Si vous faisiez plus de quelques kilomètres le dimanche, c'était un péché. Péché, normalement, c'est quoi? Désobéir à qui?
À Dieu.
Si on désobéit à un commandement humain, est-ce que c'est un péché?
Non.
Non. Donc, les personnes ont décalé ce que Dieu voulait pour dire obéissez à nous. Et ça, c'était devenu des traditions. Est-ce que les traditions dans l'Église sont mauvaises?
Non.
Non.
Si elles permettent. Ça dépend. Si dans l'intention, c'est de donner Dieu pour Dieu. Que ça ne passe pas au-dessus de la parole de Dieu.
L'intention était bonne avec ces traditions. C'était pour honorer Dieu. Mais là, la relation avec Dieu a été coupée. Et ce que Jésus va critiquer, c'est qu'il va dire non seulement vous demandez aux gens à obéir à des paroles humaines, mais en plus, vous avez des paroles qui sont en opposition à des enseignements de Dieu fondamentaux. Quel enseignement Jésus va mentionner?
Tu
honoreras ton père et ta mère. Qui est un enseignement non pas secondaire, mais un enseignement qu'on trouve dans les 10 commandements, qui sont considérés en hébreu, c'est les 10 paroles. Ashrei Advarim, les 10 paroles, et c'est des paroles. Une parole, c'est quelque chose qui est dit par une personne pour que l'autre entende. C'est une relation. Nous, on dit en français les commandements de Dieu, j'aime pas trop. Je préfère dire les 10 paroles. Parce que la parole invite à une relation. Une parole est dite pour que quelqu'un l'entende et que la personne réponde. Et ce n'est plus une question de commandement et d'obéissance qui est en jeu, c'est une question de parole et de réponse. Concrètement, c'est la même chose, vous allez obéir. Mais vous n'obéissez pas à un texte de loi, vous obéissez à une parole, vous obéissez à Dieu. Et c'est là que la Bible devient intéressante. Il y a des gens, des fois, qui vont aimer la Bible, mais ne pas prier. Ils vont dire, la Bible est importante. Si vous ne priez pas, vous pouvez confondre la Bible avec Dieu. Est-ce qu'une Bible est Dieu?
Non.
À qui on obéit?
À la parole.
Pourquoi est-ce que ces paroles sont importantes?
Parce que la parole est Dieu.
Oui, parce que
la parole est Dieu.
La parole vient de Dieu. Et on obéit à la parole de Dieu en relation avec Dieu. La parole de Dieu nous invite à la relation avec Dieu. Et Jésus est la parole vivante. Et c'est ce à quoi Jésus va répondre donc. Est-ce que nous avons dans notre siècle... Vous avez observé, certaines églises vont parler de traditions en les mettant très en avance. Par exemple, les églises orthodoxes vont avoir une façon de parler de tradition où ils vont dire les décisions des conciles des premiers siècles sont aussi importantes que la parole de Dieu. Et là, les églises protestantes vont dire nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, nous mettons la parole de Dieu, la Bible, à une position qui est unique. Vous ne pouvez pas mettre ça au même niveau que même des décisions avec des membres de l'Église. Même si les décisions des conciles des premiers siècles sont acceptées par tous les chrétiens des églises protestantes, catholiques, réformées, évangéliques, orthodoxes. C'est des points où tous les chrétiens dans le monde entier, ceux qui se définissent comme chrétiens, se mettent d'accord. Entre autres, par exemple, c'est de dire que Jésus est homme et Dieu. Ça, c'était des choses qui ont été décidées dans les conciles. Mais vous allez avoir ensuite une évolution. Par exemple, dans l'Église catholique, il y a eu une progression où il y a eu des dogmes de définis ensuite. Et dans l'Église catholique, on dit « la parole de Dieu est une tradition ». La parole de Dieu a été transmise par des hommes et on considère que ça fait partie des traditions. Ça veut dire que la parole n'est pas au-dessus des traditions. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici ? La parole est au-dessus des traditions. Est-ce que ça veut dire qu'on peut enlever toutes les traditions dans une église ? Est-ce que vous pouvez avoir une église qui n'a aucune tradition ?
Non.
Est-ce que vous pouvez imaginer une église où il n'y a aucune tradition et que la parole de Dieu ?
Non, c'est pas possible parce qu'en fait, la parole de Dieu, Dieu et sa parole le font pas, mais l'église, c'est Dieu utilise des hommes pour mener son église, ouais. Parce qu'en son de l'esprit, l'homme reste l'homme. Donc, mm-hmm. on peut pas dissocier l'église aux traditions.
Ouais. Est-ce que célébrer Pâques, c'est un commandement de Dieu ?
Non. Si.
Célébrer Pâques, pas la Sainte Cène, Pâques.
Si. Non, parce que Jésus est la vraie Pâques. Jésus est la vraie Pâques.
D'accord.
Vous faites ça en mémoire de vouloir toujours rappeler à chaque fois quand je vous ai fait sortir.
D'accord. Mais ça, c'était pour dans le judaïsme, la célébration, une des fêtes. Mais si ça fait foi, dans ce cas-là, il faut qu'on fasse toutes les autres fêtes juives, hein, des tabernacles. Et toutes les fêtes juives ont été réinterprétées dans le christianisme. Et par exemple, la Pentecôte, au temps de Jésus, ce n'était pas la Pentecôte. Vous savez comment... Enfin si, c'était la Pentecôte Pentecosta, ça veut dire la cinquantaine. Mais c'était la fête des semaines dans le judaïsme. Et nous, les chrétiens, on l'a réinterprétée, c'est devenu la fête de Pentecôte. Est-ce que dans la Bible, il y a Paul qui dit « Il faut que tous les ans, vous célébriez Pentecôte ».
Non.
Est-ce que c'est mauvais de célébrer Pentecôte ?
C'est très bon.
C'est très bon, c'est une très bonne chose. Vous ne pouvez pas enlever les traditions d'une église. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est leur position. Alors, parmi les églises de notre type, comme nous sommes donc l'église du Nazaréen, c'est une église qui fait partie des églises wesleyennes. Les Wesleyens, on aime bien ce que Wesley a enseigné. C'est pas lui notre maître, c'est Jésus-Christ. Mais il a donné des traditions qui nous en semblaient bonnes. Une des choses qu'il nous a dites, c'est... Pour Wesley, il disait, la parole de Dieu est l'autorité suprême. Mais vous avez aussi les traditions, vous avez la raison et vous avez l'expérience. La vérité doit être discernée à travers ces quatre choses. Comment on appelle ça, Dominique et Frédéric, vous vous rappelez ? Le quadrilatère wesleyen. Oh, c'est une technique. Et c'est bien parce que finalement, la parole de Dieu, elle doit être aussi, c'est l'autorité suprême, mais comment on la met en relation avec notre tradition ? S'il y a une opposition entre une tradition de ce qu'on fait dans l'Église et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, mais que c'est une tradition dans notre Église, est-ce que c'est mauvais ? À partir du moment où elle n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ensuite, Wesley disait, c'est bien, parole de Dieu, tradition, il rajoutait deux choses, la raison et l'expérience. Il disait, ce que vous croyez, vous êtes invité à l'expérimenter, à expérimenter comment la parole de Dieu s'enracine dans vos vies et est vraie. Et vous avez aussi à réfléchir, est-ce que la parole de Dieu, on peut faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu sans réfléchir ? En disant,
on
comprendra pas. Dieu vous a créé, chacun de nous, avec un cerveau, une intelligence, et on est invité à réfléchir. Donc ça fait partie des éléments pour mettre en pratique la parole de Dieu, la vérité et les enseignements de Dieu. S'il y a des gens qui vous disent qu'il y a besoin de la parole de Dieu, il ne faut pas réfléchir, bah, commencez à lire la Bible, vous verrez, il y a des fois où vous dites, mais pourquoi dans tel cas-là on fait ça, et dans tel autre cas on ne fait pas ça ? Pourquoi ? Et il y a des exemples où des fois vous vous rendez compte, il y a des éléments où vous allez dire, cette parole-là, je la mets en relation avec telle autre, dans ce contexte-là, elle est valide. Mais dans telle autre, je m'aperçois, il va falloir du discernement. Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu est contradictoire ?
Non.
Non. Ça veut dire que la parole de Dieu, nous la considérons comme notre référence, mais elle nécessitera notre réflexion et notre discernement. Et différentes églises auront une façon d'interpréter certains textes un peu différente. Dans la mesure où c'est cohérent, ça va. Quand c'est incohérent, c'est dangereux. Donc il faudra demander, mais comment ? Si vous voyez une tradition dans une église qui vous semble contraire à la parole de Dieu, demandez, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et vous allez à discerner, et vous verrez, certaines églises soutiendront un texte biblique, et d'autres églises soutiendront un autre texte biblique. Si vous avez des textes bibliques à l'appui, déjà c'est une bonne chose, et si ça vous semble cohérent, et à vous de discerner après. Mais les traditions font partie de la vie de toutes les églises. Et il y avait des fois de jeunes églises qui disaient, nous on n'a pas de tradition. Vous savez ce qu'ils faisaient la première chose ? Ils se réunissaient le dimanche. C'est fichu déjà. Si on n'a pas de tradition, déjà, il ne faut pas se réunir le même jour. Mais les traditions, finalement, on pourrait dire que c'est des habitudes de groupe humain et on a besoin de ces traditions. Alors, Jésus va mentionner une tradition très précise. Il va dire, on est invité à honorer nos parents. Et dans le judaïsme de l'époque, il y avait une tradition. Cette tradition, c'est que on honore Dieu avant l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'on doit honorer Dieu d'abord ou les êtres humains ?
Jusque-là, ça va.
Ça va, on est d'accord. Bon, si moi je fais une offrande à Dieu, est-ce que c'est plus important que de faire une offrande à mes parents ?
Ben oui.
Oui, c'est Dieu qui est premier. Donc il y avait des gens au temps de Jésus qui disaient je devrais donner, parce qu'il y avait un commandement de prendre soin d'honorer ses parents. Honorer ses parents, ce n'est pas quand vous êtes petit de dire oui papa, oui maman. C'est quand vous étiez adulte que vos parents avaient besoin de vous, vous deviez les soutenir financièrement. Vous deviez les aider parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait pas de caisse de pension, il n'y avait pas d'économie. Si les parents étaient âgés et que les enfants ne les soutenaient pas, qu'est-ce qui allait se passer ? Ils allaient mourir de faim, ils allaient mourir de pauvreté. C'était une horreur. C'est pour ça que dans l'église primitive, dans les premiers siècles, on parlait beaucoup de soutenir les veuves. Parce que les veuves étaient des personnes qui étaient dans la société en risque important d'être vraiment délaissées et de mourir de faim. Donc il y avait vraiment ce souci de prendre soin de nos familles, de nos parents. Alors par exemple, je suis au temps de Jésus, j'ai une maison et où j'ai juste de la place pour moi et mes enfants, et j'ai une deuxième petite maison à 3 km de Jérusalem. Mais les prêtres et les pharisiens m'ont dit, alors si tu fais des dons à Dieu, ton âme va être bénie et Dieu t'honorera d'autant plus et tu entreras encore plus facilement au paradis. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis, oh, j'offre cette maison au temple et je la consacre à Dieu. Est-ce que Dieu est plus important que les hommes ?
Non.
Oui ou non ?
Oui.
Donc, j'ai fait quelque chose qui est génial. Et juste après, j'ai mes parents qui viennent me dire, Stéphane, on a un problème. On n'a plus de maison. Tu sais que notre maison était louée. On ne peut plus louer la maison. Est-ce que tu pourrais nous aider ? Je leur dis, oh papa, maman, je suis désolé. Je ne peux pas. Ma maison, je l'ai offerte au temple. Est-ce que ça va, ça ?
Non.
Est-ce qu'il est dit dans la Bible que je dois faire les dons de ma maison secondaire au temple ?
Non.
C'est un choix humain. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible ?
Honore
ton père et ta mère. Donc vous voyez comment on peut jouer avec des traditions humaines, avec des raisonnements logiques, on peut convaincre des gens de choses mauvaises. Et c'est ce qui se passait au temps de Jésus. Jésus, est-ce qu'il aimait bien ça ?
Non.
Il disait par vos commandements humains, parce que dans la Mishnah, dans un des traités sur les serments, il disait, il y avait une discussion, est-ce que quand tu as consacré quelque chose à Dieu et que tu dois honorer tes parents et qu'ils ont un besoin, est-ce que tu gardes ou est-ce que c'est une condition pour revenir sur ton serment ? Une condition pour redonner à tes parents ce que tu avais consacré à Dieu. Et il disait peut-être, on ne sait pas trop. En tout cas, au temps de Jésus, on voit qu'il y en a qui ne le faisaient pas. Et si vous y pensez, vous pouvez relire la fin du chapitre 12 de l'évangile de Marc. Chapitre 12 de l'évangile de Marc, vers les versets 38-39. Marc 12, 38-39. Jésus dit, malheur à vous qui dévorez les maisons des veuves. Vous vous rappelez de ce texte ? Ça parlait probablement de choses comme ça. Où les pharisiens sous des prétextes de piété, faisait que les gens donnaient les maisons, au lieu de les donner à leur, aux parents, pour des veuves qui auraient eu des besoins, on les donnait à Dieu, et puis après on avait le droit d'une première place dans la synagogue, on était honoré parce qu'on était des bons adorateurs de Dieu. Hein ? Dans les églises, que ce soit protestantes ou catholiques, il y a 100 ans, il y avait une technique qui était utilisée, c'était les bons avaient des noms. Les bancs avaient des noms. Je ne sais pas si à la Réunion, ils faisaient ça, mais dans des églises en France, aux États-Unis, en Suisse, vous aviez les premiers bancs dans l'église, vous aviez le droit à avoir une petite étiquette dessus qui disait le banc de Sandra, le banc de Mémé Fillette, le banc de Colline. Et si vous aviez payé suffisamment, vous étiez à la première place. Comme ça, vous n'étiez pas gêné, il n'y avait pas du courant d'air, il n'y avait pas des problèmes. Vous aviez le droit d'être à la première place.
C'était les places VIP.
Place VIP, c'est ça.
J'aurais une question là-dessus. À l'église des Nazaréens protestants, il y a les bancs qui ont des plaquettes sur le côté. C'est pas quoi ces plaquettes avec les noms dessus. C'est peut-être simplement.
Ça doit être des restes de cette époque-là. Il y a 100 ans, il y en a qui faisaient ça.
Je pose juste la question parce que là, j'ai vu ça.
Est-ce qu'ils le font encore? Si tu vas t'asseoir sur le banc.
Non, c'est pas réservé à quelqu'un. Je pense que ce sont des noms qui sont prévus, peut-être.
Voilà. Alors, si, quand tu retournes, Anton, est-ce que je peux te demander de poser une question au pasteur?
Oui.
Tu lui diras, pourquoi il y a des noms ici?
D'accord.
Dans certains cas, c'était... Alors, je dirais même dans des églises nazaréennes, il y a 100 ans. Hein, soyons honnêtes, presque toutes les églises chrétiennes faisaient ces trucs-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a un nom, là, sur la chaise? Non. Donc c'était des traditions où on honorait ceux qui étaient fidèles à Dieu. Est-ce que c'est mauvais d'honorer les personnes qui sont fidèles à Dieu?
Non.
Non. Mais il faut faire attention si on ne rejette pas les autres. Si on ne donne pas l'impression à des personnes qui ne sont pas voulues, qui doivent aller derrière. Et puis que c'est vraiment ceux qui sont riches qui ont le droit d'avoir les premières places. Et donc ça c'était ces commandements. Et Jésus s'y oppose et leur dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition ». Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Est-ce que vous pensez que les gens, ils ont bien aimé ça?
Non.
Non. Là, Jésus, il déclare la guerre. Il leur dit, ça suffit avec vos traditions. Il va falloir qu'on mette les choses au clair. Vos traditions s'opposent à la parole de Dieu. D'accord, vous avez des jolis prétextes. Vous dites que c'est pour honorer Dieu, pour protéger les gens du péché. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ce que Dieu demande, ce n'est pas de faire tout plein de trucs en plus et dire aux gens de faire ces choses en plus. C'est d'abord d'obéir
à la parole de Dieu.
Et ça, c'est ce que Jésus nous a rappelé et nous invite à le faire. Une obéissance de relation. Et c'est ça qu'il faut ne jamais oublier. L'obéissance à Dieu et la foi sont intimement liés. C'est pas une idée de se dire je vais lire tous les trucs que je dois faire puis je vais les faire. Ok, je dois faire ça, je dois... Non, c'est de parler à Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, et en même temps que vous parlez avec Dieu, que vous priez, que vous dialoguez avec Dieu, vous écoutez ses enseignements et vous les mettez en pratique, en réponse dans la foi. Parce que des fois on peut se dire bon, je suis chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Je fais ci, je fais ça, donc je suis un bon chrétien. Est-ce que ça marche ça?
Un temps.
Puis à un moment donné, vous sentez votre cœur, il est vide. Vous dites, je suis en colère à l'intérieur, je suis pas... Puis vous lisez un truc. Vous ouvrez votre Bible au chapitre 5 de Matthieu et il vous dit, aimez vos ennemis. Ouh! Oh là! Oh, aïe, aïe, aïe! Oh, ça j'aime pas. Et il y a des gens des fois qui disent, oh, il y a des paroles, je les aime pas. Il y a des personnes qui viennent vous voir pour vous dire des fois des textes très rares et ils disent oh, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est important, posez toujours des questions. Mais si vous vous préoccupez de toutes les choses que vous ne comprenez pas et que vous ne mettez pas en pratique ce que vous comprenez, ne soyez pas surpris que vous ne grandirez pas dans la foi. Il y a des gens qui cherchent les poux à Dieu. Hein? Ils cherchent, ouais, mais on dit ça, mais on dit qu'on doit faire ça, mais de l'autre côté, hein, il y a ça et tout. Mettez en pratique ce que vous comprenez. Et vous serez surpris qu'il y a déjà beaucoup de boulot dans la relation avec Dieu. Aimer son ennemi, je peux vous assurer que c'est du travail de tous les jours. Aimer son prochain, aimer Dieu, c'est la mise en pratique. Et progressivement, dans l'obéissance à Dieu, Dieu nous rend intelligents. la parole de Dieu n'est pas une question de maîtrise intellectuelle, c'est une question de relation avec Dieu. Et plus vous la mettez en pratique, plus Dieu vous enseigne. Plus vous la transmettez à d'autres, plus Dieu vous enseigne. C'est le mystère de l'enseignement de Dieu. Plus vous obéissez, plus ça devient cohérent. Plus vous répondez par la foi, plus vous priez, plus Dieu vous enseigne. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas d'enseignement ? Si, il en faut. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se priver de pasteur ? J'espère que non. Je pense que le pasteur a un rôle important d'enseignant de la parole de Dieu. Mais ça ne remplacera jamais votre relation avec Dieu. Je ne suis pas l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je suis juste un enseignant pour vous inviter dans votre relation avec Dieu à grandir. Vous pouvez grandir sans pasteur. Vous n'avez pas besoin de moi pour demander pardon à Dieu. Vous pouvez demander pardon à Dieu directement. Ensuite, Jésus va passer à une autre étape. Il a enseigné par rapport à ça et il aimerait bien mettre en évidence qu'est-ce qui est en jeu dans cet enseignement par rapport au fait d'obéir à la parole de Dieu et non pas à des commandements d'hommes. Il appelle la foule et il va les enseigner. Je vais vous lire maintenant la deuxième partie du texte d'aujourd'hui, les versets 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » Parole de notre Seigneur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas des enseignements dans l'Ancien Testament par rapport à ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger ? Il y en a beaucoup dans Lévitique. Il y en a beaucoup. Et là, Jésus parle avec une autorité qui vient de Dieu. Il leur dit, finalement, et l'évangile de Marc le soulignera, qu'à travers cet enseignement, Jésus est en train de dire que toute nourriture est pure. C'était choquant pour les gens de l'époque de Jésus, parce que c'était un enseignement biblique. Là, pour le coup, c'était une parole de Dieu. Mais ce que Dieu disait aussi, c'est que l'important, c'est le cœur. Le plus important commandement dans l'Ancien Testament, c'était « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Jésus, il ajoutait un autre commandement. C'était quoi ? C'est lui qui l'a inventé, Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » C'est que Jésus qui l'a dit ? D'accord, c'est Dieu qui l'a dit à travers Jésus, mais avant lui, est-ce que quelqu'un l'avait dit ?
Moïse, non ?
Moïse l'avait enseigné, en le transmettant comme volonté de Dieu, dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Il disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'était déjà dans l'Ancien Testament. Alors, beaucoup de chrétiens n'ont pas lu le livre du Lévitique, donc ils n'ont pas vu. Si vous voulez lire un chapitre dans le livre du Lévitique, c'est quel chapitre ? Aidez-moi, Laurent, Frédéric et Dominique. Lévitique, chapitre. Alors, 18 est un chapitre important, mais ce n'est pas celui-là. C'est le chapitre 19. Dans Lévitique, vous vous rappelez le numéro 19. C'est le chapitre le plus important où il y est mention de « Tu aimes, soyez saint car je suis saint et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et donc, je dirais, c'est le chapitre le plus important du livre de Lévitique, si on peut se permettre. Alors, finalement, là, Jésus, il est en train de passer une autre étape. Il est en train de dire « On va faire une mise à jour. » et une mise à jour de la parole de Dieu. Et ça, ce qu'il y a, c'est que c'est fort. Mise à jour de la parole de Dieu. Il dit, ces enseignements par rapport à la nourriture qui est à manger, c'était valable pour qui ? Pour quel peuple ? Peuple d'Israël, le peuple juif. Qu'est-ce qui va se passer à travers Jésus ? Toutes les personnes au monde, tous les êtres humains sont invités à venir adorer Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament ?
Non.
Des Égyptiens qui sont partis avec. Alors je vous lis un verset que Jésus mentionne quand il va être dans le temple. Ésaïe 56, verset 7. Si c'est 7. L'Éternel pour le servir, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, les étrangers, donc tout le monde. Hein. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne et je les réjouirai dans ma maison. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour tous les peuples, toutes les nations. Donc depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le désir de Dieu, c'est d'amener toutes les personnes à l'adorer s'il est le créateur de l'univers. Et c'est logique que toutes les nations viennent à adorer Dieu. Israël, c'était une étape dans le plan de Dieu. Est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël n'a plus un rôle spécifique pour Dieu aujourd'hui ? Si. Si, ils ont toujours un rôle. Est-ce que ça veut dire que c'est les seuls à adorer Dieu correctement ?
Non.
Non. À travers Jésus, il y a eu un passage qui a été d'inviter les personnes de toutes les nations à adorer Dieu, et certaines règles qui étaient réservées au peuple juif ne sont pas nécessaires pour les chrétiens. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a que les chrétiens et que les juifs sont tous infidèles ? Est-ce qu'il y a des juifs qui sont fidèles à Dieu ?
Oui, il y a des infidèles aussi.
Est-ce qu'il y a des juifs qui ont accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur ?
Oui.
Hein ? Donc n'oubliez pas ça. Et je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup. Mon prof en Ancien Testament, Yohanan, était... au cas où vous oubliez ce détail, je serais heureux de vous le rappeler de temps en temps. Il y a beaucoup de juifs qui accueillent Jésus comme leur Seigneur. On appelle ça les églises messianiques ou les juifs pour Jésus. Aux États-Unis, j'avais été dans une synagogue messianique. C'était intéressant. On avait été là où vous aviez une sorte de... C'est comme dans une synagogue, avec une différence. Il y a une lecture de la Torah, les premiers livres de la Bible, et ensuite une lecture des évangiles ou des épîtres de Paul. Les deux ensemble. C'était des gens, eux ils suivaient, ils respectaient les règles de nourriture, parce que ces règles de nourriture étaient dans l'Ancien Testament et beaucoup de juifs les respectent encore. Mais Jésus donne l'autorisation de ne plus suivre ces règles rituelles. C'est des règles rituelles et aussi tout ce qui est rituel dans l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, il y avait les questions de sacrifice. Est-ce qu'on en fait encore des sacrifices les chrétiens ?
Non.
Pourquoi ?
Jésus est le seul sacrifice.
Quel était le rôle des sacrifices dans l'Ancien Testament ?
C'est pour
l'éducation. Il est censé votre péché sur les animaux.
Voilà.
Le pénalty pour le péché, c'était le veau. Comme les animaux apportent votre péché, les animaux étaient tués.
Voilà.
Et les sacrifices de Dieu.
Tout à fait. Les sacrifices ont un rôle de rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Ne pensez pas que les sacrifices, c'est fou et que c'est idiot. Finalement, Dieu disait, je veux que vous obéissiez. Ce que nous devons faire aussi. Voilà comment vous allez rétablir votre relation avec moi quand vous avez péché. Vous allez vous repentir et je vous demanderai d'offrir un agneau comme marque de votre repentance. Si vous êtes pauvre, ça sera une colombe. Donc le but de Dieu, c'était pas de dire que c'est que les riches qui peuvent être en relation avec Dieu, c'était de dire votre attitude de cœur doit se traduire par des actes extérieurs. Et c'était une façon qui a du sens de dire si vous êtes vraiment en repentance. Problème, c'est que les gens après avaient tendance à oublier l'attitude intérieure et juste apporter les animaux. Et Jésus, et Dieu, pardon, dans les prophètes va dire, j'ai en horreur vos sacrifices. Ce que désire Dieu, ce n'est pas les sacrifices, mais l'obéissance. Déjà Samuel le mentionnera, et les prophètes ensuite. Parce que le but des sacrifices, c'était quoi ? C'est que les gens puissent avoir une attitude de cœur repentant associée à une attitude extérieure de repentance. Mais souvent, on a tendance à faire juste l'extérieur et l'intérieur
reste pareil.
C'était le problème quand on suit que ces règles, même des règles qui viennent de Dieu. Et Jésus, là, il va mettre le point, il va parler par rapport à toutes ces questions de règles, il va dire qu'est-ce qui est important. Il va dire d'abord, ses disciples, dans les versets 12 à 14, lui disent, ils ont été choqués, les pharisiens, vraiment, ils ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Jésus va leur dire, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. C'est quoi ces plantes ?
C'est les hommes.
C'est les hommes ?
Oui.
Alors ça peut être les hommes, ça peut être les pharisiens, ça peut être des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Tout enseignement qui est en opposition à la parole de Dieu va être déraciné. Et finalement, ces enseignements qui avaient un air pieux, et vous pouvez faire des choses pieuses des fois, mais si c'est en opposition à la parole de Dieu, il faut faire attention.
Ça me fait penser à la plante qui vient forcément d'une graine. Ouais. Si la graine n'est pas la parole de Dieu, mais les traditions, nous-mêmes ou autre chose d'extérieur, c'est une mauvaise plante.
Tout à fait. Donc, il y a cela qui est fondamental, que Jésus est en train de rappeler. Ça peut être, comme Eva le mentionnait, des personnes qui n'ont pas fait ce que Dieu voulait, mais ça peut être simplement aussi des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Colline.
C'est des femmes, je crois que peut-être aujourd'hui, nous sommes encore obligés de faire le sacrifice pâle avec les animaux, comme vous avez on a discuté mardi soir ensemble, que quand on fait le péché, c'est pour faut faire le sacrifice de laisser le péché, participer au péché et faire
se détourner.
Oui.
Oui, il y a une action. La repentance, c'est pas théorique, c'est pratique.
Oui, c'est...
Si on fait un péché, on a à stopper le péché, mais pas seulement. On a à se tourner et faire l'inverse. Hein? Un des exemples, que, par exemple, celui qui était voleur, arrête de voler et faire quoi ?
Devenir généreux.
Si moi, j'ai tendance à humilier les autres et tout, insulter, qu'est-ce que je dois faire ? Arrêter ? Voilà. Apprendre à encourager les autres. En fait, si on ne remplace pas un péché par une bonne chose, il y aura un vide dans notre vie. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va y retourner. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Moi, dans mon passé, c'était l'orgueil. J'avais pas de choix. Soit je deviens quelqu'un qui encourage les autres, soit je suis fichu avec Dieu. C'est pas compliqué. Et donc, j'apprends petit à petit à encourager les autres. Et mon rôle de pasteur, c'est de vous encourager dans votre foi à grandir. C'est pas moi le centre, c'est vous, c'est l'Église. Et Jésus va mentionner donc cette. Quand il va parler de ces plantes, il va dire elles n'ont pas été plantées par Dieu, donc elles vont être déracinées. Ce qui veut dire que ces enseignements qui ne sont pas de Dieu vont disparaître. Et il dit laissez-les, donc ne vous inquiétez pas d'eux. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. S'il y a quelqu'un qui est aveugle, il va avoir une canne blanche, déjà pour dire aux autres, faites attention à moi. Il va avoir des fois un chien qui a été entraîné et qui va le guider. J'ai pas vu d'aveugle à La Réunion. Vous avez déjà vu des aveugles ou il y en a pas beaucoup ? Il y en a ? Donc en France, j'en avais vu pas mal, mais c'est des personnes qui sont fragiles. Si quelqu'un veut faire du mal à un aveugle, lui mettre son pied devant pour faire tomber la personne, il peut ? Ça, c'est des péchés graves. Je vous dirais, si un jour vous faites ça, c'est un péché très grave. Faire du mal à celui qui ne peut pas se défendre, c'est très grave. Dieu parle de la veuve et de l'orphelin. C'est pareil, c'est ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ceux qui ne peuvent pas se défendre, quand on leur fait du mal, c'est un péché grave. Et Dieu est en colère contre cela. Et c'est pour ça qu'il dit là, un aveugle qui guide un aveugle, c'est grave. Non seulement ils sont aveugles, mais qu'est-ce qu'ils font ? Il leur dit, venez, nous on sait comment on fait pour trouver le chemin. Eux, ils vont tomber, ils arrivent à la falaise. Ils tombent. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont derrière ?
Ils tombent aussi.
Et vont tomber aussi. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Fosse ou pire. Ensuite, Pierre dit, explique-nous cette parabole. Alors, vous avez remarqué dans le chapitre 14, ce qui était là, Pierre commence à prendre une position de leader. Au chapitre 14, c'est quand Jésus calme la tempête et Pierre dit, demande-moi de marcher sur les eaux. Il commence à grandir dans la foi, Pierre. Plus que les autres, quelque part. Il est celui qui avance en premier. Et dans la foi, et aussi dans les bêtises, des fois. Hein. On va avoir les deux. Mais il est courageux, Pierre. Et il va dire, et il marchera sur l'eau, il aura peur après, mais Jésus va le rattraper. Et là, c'est un peu le porte-parole des autres. Et il va dire, explique-nous cette parabole. Alors dire, il n'a pas dit, explique-nous ce que tu as voulu dire. Parabole, ça fait un peu compliqué, vous savez. Donc, pour dire, on n'est pas imbécile, il leur dit, ta parole est très compliquée, donc on a besoin d'une explication. Donc, explique-nous cette parabole. Et ça va bien, Jésus va pas lui... Il va juste lui dire, tu n'as pas compris ? Verset 16, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Jésus pensait que ça c'était compréhensible. Dans certaines paraboles, Jésus va expliquer, mais là, il leur dit, vous n'avez pas compris ? Et le verset 17 est le verset clé. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche entre dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Donc, ce qui entre dans la bouche, ça entre dans le ventre. Les enseignements de Jésus, c'est du concret. Hein. Et les lieux secrets, c'est quoi ?
Les toilettes.
Chez Matthieu, il était un peu plus soucieux du judaïsme que Marc. Donc Matthieu, il a essayé de dire les lieux secrets. Chez Marc, vous avez les toilettes. Hein. Le mot, nos Bibles sont très pieuses, donc elles traduisent pas les toilettes. Mais c'est ça, les lieux d'aisance, en général, on disait. Mais c'était le mot dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, qui a ce même texte. Et donc, finalement, il dit, ce qui entre dans la bouche, ça va ressortir. Mais par contre, ce qui est dans le cœur, verset 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Donc, ce qui sort de la bouche. La bouche est un lieu stratégique. C'est un lieu qui, finalement, est le lieu par lequel sortent nos paroles. Nos paroles ont une puissance incroyable. Ce que nous disons, dans les proverbes, il est dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez encourager quelqu'un à travers des paroles et les aider à vivre et à se détourner de la mort des fois. Et par vos paroles, vous pouvez écraser quelqu'un qui souffrira toute sa vie de ces paroles que vous avez dites. C'est impressionnant de voir le poids, la puissance des paroles. Vous avez probablement expérimenté dans votre vie, quand des gens ont dit des choses mauvaises à vous, combien ça a pu vous faire du mal ? Combien vous avez pu être blessé ? Et la question pour nous, c'est, est-ce qu'on va faire partie de ce cycle de péché où on va apprendre, nous, à avoir des paroles qui sont à l'honneur de Dieu, qui sont des paroles qui transforment en bien ? C'est vraiment ça qui est en jeu. Et Jésus leur dit, le cœur, la bouche, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort du cœur. Le cœur, dans le judaïsme, et dans la foi juive, et dans la foi chrétienne biblique, le cœur, c'est pas le lieu des émotions. C'est pas mon petit cœur est passionné, aujourd'hui je suis amoureux, et on dit amoureux aujourd'hui parce qu'on a des émotions. Les émotions sont importantes. Mais l'amour, c'est plus que ça. Le cœur, c'est le lieu de l'amour. Et le centre de l'amour, c'est quoi ?
C'est Christ.
C'est Christ, et c'est la volonté. On mesure l'amour à la volonté de faire le bien pour l'autre. Si vous dites « Oh, j'aime quelqu'un » et vous ne faites rien de bon, ce n'est pas encore de l'amour, ce n'est que des sentiments. Quand j'étais plus jeune, des fois j'étais amoureux d'une fille. Je disais ça, c'est parce que culturellement, oh, je la voyais, mais je ne faisais rien. Ce n'était pas de l'amour, c'était une attirance, on pourrait décrire. Dans notre culture aujourd'hui, on parle d'être amoureux, mais cet amoureux n'est pas du tout biblique. Cet aspect amoureux. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est aider. L'amour, c'est soutenir. Si vous avez un bébé et que le bébé, vous lui dites « Qu'est-ce que je t'aime ? Qu'est-ce que je suis amoureux de toi, mon petit bébé ?» Par exemple, Sandra, vous avez votre petit bébé, il pleure, ouais, il a faim, et vous lui dites « Qu'est-ce que je t'aime, mon petit bébé ? Je vais prier pour toi. Oh, je t'aime beaucoup, je vais prier pour toi deux jours aujourd'hui. » Et le bébé, il se dit « Quand est-ce que ça vient, le lait ou la nourriture ?» Et puis la maman qui dit « Ah, t'inquiète pas, je prie pour toi, je t'aime !» Non. Aimer, c'est de répondre aux besoins de l'autre dans la mesure où vous sentez que c'est des besoins justes et adaptés que finalement vous allez donner à l'autre. Aimer, c'est entrer en relation, c'est découvrir quels sont les besoins de l'autre à la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'autre va vous dire tout ce qu'il veut, mais que vous allez discerner avec Dieu ce qui est bon pour l'autre. Et vous allez petit à petit apprendre à faire le bien de l'autre. Et c'est parce que vous voulez que l'autre ait, c'est de discerner ce qui est bon pour l'autre. Par exemple, je pourrais dire « Oh, je veux vraiment le bien de Alexandre. Je veux vraiment montrer de l'amour pour Alexandre et je lui offre un marteau-piqueur. Je lui dis « Alexandre, j'ai un marteau-piqueur, je ne m'en sers pas. Je crois que tu vas être vraiment heureux avec ça. » Alexandre, il me dit « Bon, c'est gentil, merci. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ?»
Le donner à Colin.
Voilà. Donc, l'amour, c'est de discerner et de vouloir le bien de l'autre. Et Jésus va le mentionner et il va dire l'aspect négatif. Il va dire tous les péchés, finalement, ils viennent d'où ?
Du cœur.
Ils viennent du cœur. Hein ? Ils viennent de nos cœurs à chacun de nous. Et est-ce que Jésus, il veut que nous continuions à pécher ?
Non.
Et on va voir, ça va être le sujet de la semaine prochaine, comment ne plus pécher, parce que finalement c'est le but de Jésus. Mais il dit, c'est du cœur que viennent quoi ? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand vous avez des listes comme ça dans l'Ancien Testament, en général, on a une habitude. On les lit rapidement, puis on cherche des paroles d'encouragement, on cherche... Vous avez déjà fait ça ?
Oui.
Moi aussi j'ai fait ça, hein. Oh, j'ai des bons plans pour toi dans le livre de Jérémie, des plans de vie et de paix, et puis on cherche dans les autres, tout va bien aller. Quand il y a des listes de détails de choses à pas faire, est-ce que vous passez beaucoup de temps à prier dessus ?
Ça dépend.
Ça dépend. Je vais vous dire, je vous encourage à prier sur ces textes et de méditer. Dieu veut nous enseigner comment est-ce qu'on va se détourner du péché. Si on ne reconnaît pas qu'il y a des enseignements de la parole de Dieu qui nous décrivent un petit peu quels sont les types de péchés dans nos vies, alors mauvaise pensée, c'est ce qui va décrire tout l'ensemble des pensées décrites ici. Ensuite, il y aura les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors, je vais décrire un petit peu de quoi il est fait mention, mais mauvaise pensée. Il y a un proverbe ou une parole qui est très jolie, qui vient du 19e siècle. On ne sait pas qui l'a dite. C'est vers 1812 dans un journal que ça avait été publié. On pense que c'est un Américain, Emerson, Waldo Emerson, qui avait dit ça la première fois, mais on n'en est pas sûr. La parole est la suivante. Si tu sèmes une pensée, tu récoltes une action. Si tu sèmes une action, tu récoltes une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu récoltes un caractère. Si tu sèmes un caractère, tu récoltes un destin. Nos pensées, c'est ce que nous semons pour notre avenir. Notre avenir va être fait de la qualité de ce que nous pensons. Nous avons tendance à dire, c'est les autres qui font qui je suis. Ce n'est pas vrai. Avec Jésus, Jésus nous dit, vos pensées sont ce qui va déterminer qui vous êtes. C'est des pensées que vient l'impureté. Et si Jésus vous dit que les pensées, c'est de là que vient l'impureté, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez ? Qu'on soit purifié dans nos pensées ? Jésus, quand dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, Jésus est annoncé, il est dit, tu l'appelleras Jésus parce qu'il délivre son peuple du péché. Le but de Jésus, c'est quoi ? Nous délivrer du péché. Nous délivrer du péché, ça veut dire nous permettre de vivre sans péché. C'est fou, ça. C'est fou. Il y a des fois, il y a des chrétiens qui disent, la vie chrétienne, c'est je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon. Vous avez déjà entendu des trucs comme ça ?
Oui.
Est-ce que vous trouvez Jésus vous enseigner ça dans le Nouveau Testament ? Je suis désolé, ça n'y est pas. Et ce qu'il y a, c'est que Jésus nous parle d'une transformation et la semaine prochaine, on célébrera la Pentecôte. Cette transformation ne sera possible qu'avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et le but de l'Esprit-Saint, c'est pas d'abord qu'on fasse des trucs étranges, c'est que nous soyons saints. L'Esprit-Saint c'est pour que nous soyons saints. C'est pas compliqué. C'est pas l'esprit d'amitié, c'est pas l'esprit de discernement, même si l'Esprit Saint va nous aider à discerner. C'est l'Esprit Saint. Parce que la sainteté, c'est aimer son prochain, aimer Dieu et ne plus pécher. Et ça, ça n'est possible que par la grâce de Dieu. Mais l'Esprit Saint est là pour nous aider à le comprendre et à le vivre. L'Esprit Saint veut œuvrer à travers nous et il y a ce qu'on appelle les dons de l'Esprit aussi. Des manifestations extérieures que Dieu peut faire. Mais la première chose que Dieu veut faire, c'est travailler sur ce cœur méchant et adultère. Sur ce cœur pécheur qui est le nôtre, pour qu'il soit un cœur qui aime, un cœur qui n'est pas agressif, un cœur qui ne veut pas le mal de l'autre, qui n'est pas en train de méditer le mal. Par exemple, des fois, on pense à tout ce que les autres ont fait de pas bien dans la journée. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, et moi j'aime pas ci, et moi j'aime pas ça. Le cœur, c'est le lieu de la transformation. Si votre cœur est plein de Dieu, votre vie sera transformée. Si votre cœur est plein d'amertume, est-ce que cette amertume va rester dans le cœur ? Elle va pousser des racines. Et l'Épître aux Hébreux dira, ne laissez pas des racines d'amertume dans votre vie, arrachez-les. Et c'est un point important. Donc là, Jésus nous parle de cette liste. Donc c'est les mauvaises pensées, parce que ces mauvaises pensées vont faire des dégâts. Ensuite, après les mauvaises pensées, on va avoir quatre commandements qui sont des commandements parmi les 10 commandements. Est-ce que vous pourriez me dire, parmi la liste de 19, quelles sont les choses qui sont un des 10 commandements ? Voleur, ne pas voler.
Les meurtres, les vols,
adultère et
les vols aussi.
Faux témoignage, est-ce que c'est un détail ? C'est un commandement de Dieu. C'est grave de se parjurer devant une autorité et de mentir. C'est très grave. Donc on a ces quatre commandements. Lesquels ne sont pas des choses qu'on trouve parmi les 10 commandements ? Impudicité et calomnie. Alors observez bien comment l'évangéliste Matthieu a mis l'ordre de ces textes, de ces termes. On commence par mauvaise pensée, c'est le terme générique. Et Jésus avait déjà enseigné par rapport à ces questions de mauvaise pensée, comment finalement elles étaient des choses qui amenaient au péché. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, il a été dit « tu ne tueras pas », mais moi je vous dis, si vous dites en votre cœur « raca » ou vous insultez les autres, vous êtes condamnable. Et donc c'était une façon de dire vos pensées et vos paroles aussi. Et aussi, il avait parlé de l'adultère, il avait dit, c'est pas seulement de ne pas commettre l'adultère, mais si dans votre... Voilà, si vous convoitez la femme de votre voisin, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Donc, on va voir les meurtres des adultères. En troisième, on a les impudicités. Impudicité, c'est toute sexualité en dehors du mariage, en dehors du cadre, je dirais, de l'amour, du respect de l'autre, tout ça. Et la sexualité est quelque chose de bon que Dieu a créé. Et que Dieu veut mettre toujours plus dans un cadre. Et donc, ça va être aussi les pensées impures. L'impudicité, ça va être les pensées impures. Donc là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que les meurtres et les adultères, ça ne s'arrête pas là. Ça va aussi sur les attitudes intérieures. Les vols, les faux témoignages. Faux témoignage, c'est finalement dire quelque chose qui n'est pas vrai de l'autre. De dire il a fait du mal alors que la personne n'a pas fait de mal, par exemple. Et la fin, on a quoi ? Laurence, t'avais bien, très bien dit, c'est quoi le dernier mot ? Calomnie, c'est quoi une calomnie ? Dire du mal des autres. Calomnie, alors le terme grec c'était c'est une bonne traduction, calomnie ici, et c'est dire du mal. Donc en gros, Jésus il dit, c'est pas tout de pas dire un faux témoignage quand vous êtes au procès, comme si ça y est, c'est fini, j'ai pas dit mon faux témoignage, je suis tranquille. Il dit, ne dites pas du mal des autres. Et la calomnie, donc, fait partie des choses que Dieu ne veut pas. Parce que des fois, nous, on est très fort pour dire, il y a ce commandement, donc je fais juste ce qu'il ne faut pas, et puis je suis bon. On fait comment quand on fait ça ? On fait comme les pharisiens qui définissent tout plein de trucs à faire, et si vous faites tous ces trucs, vous êtes en ordre. Jésus, il vous dit, ces trucs, c'est pour vous amener au cœur. Pour vous aider à comprendre que c'est le cœur que Dieu veut. C'est votre cœur que Dieu désire. Parce que votre cœur, c'est le lieu de la transformation. Colline, tu veux poser une question ?
Qu'est-ce que ça
ça veut dire
calomnie, slander, ouais, tout à fait, en anglais. Donc, ça va être ces choses qui souillent l'homme. Vous comprenez ? Vous avez vu comment il y a ces commandements associés avec un terme après ? On a d'abord le terme général, mauvaise pensée, ensuite meurtre, adultère, puis impudicité, vol, faux témoignage, puis calomnie. C'est comme si Jésus veut dire, attention, ne vous cachez pas devant, derrière la parole de Dieu en disant, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait tout ce que mon pasteur disait, et je suis en ordre. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs. Dieu veut des cœurs qui se tournent vers lui et qui vivent et qui aiment comme Dieu veut. Et ça, c'est très important de se tourner vers Dieu et d'apprendre à aimer son prochain et d'aimer Dieu. Et c'est sur cet enseignement que Jésus va terminer en disant « Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Manger sans se laver les mains, ça ne souille pas l'homme. Est-ce que ça veut dire qu'on va retourner à la maison et qu'on va manger en arrêtant de se laver les mains, nous ?
Non.
Non. Est-ce que c'est mauvais de se laver les mains ?
Non.
Non. Vous vous rappelez comment ils faisaient les Juifs ? Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup avec la main droite, un coup avec la main gauche. Mais c'est une purification en fait. Hein. On sent bien que si vous faites juste comme ça, on ne va pas avoir les mains très propres. Mais c'était plus une technique de purification. Vous aviez déjà nettoyé vos mains avant. Les traditions ne sont pas mauvaises, mais doivent être soumises à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que souhaite Dieu ? Est-ce que Dieu souhaite qu'on fasse des choses ? Ou bien que notre cœur soit à sa gloire, purifié par lui ? Mais quand on parle de purification, on a à dire, c'est difficile. Comment on va faire ça ? Et c'est là que l'enseignement sur la pureté du cœur est fondamental. Et ça va être le sujet de dimanche prochain. De cette sanctification, de cette Pentecôte, où l'Esprit Saint descend dans notre cœur. C'est ça la Pentecôte. Et on a besoin, l'évangéliste Luc dira, Jésus citera une parole de Jésus qui dit, quand vous priez, demandez l'Esprit Saint. Comme votre Père est bon qu'il donne de bonnes choses, de même, vous demandez l'Esprit Saint. Et je vous invite à demander l'Esprit Saint, à prier pendant cette prière, Esprit Saint, remplis mon cœur. S'il y a des choses qui ne sont pas comme Dieu veut dans votre cœur, vous sentez, ah, vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de moi pour vous confesser, vous avez besoin d'avancer avec Dieu. Mais s'il y a des choses qui sont, vous dites ça, je sens que Dieu n'est pas content avec moi sur ça. Demandez l'Esprit Saint, demandez Esprit Saint, remplis mon cœur et transforme-moi. Et s'il y a des endroits où vous devez vous repentir, faites le demi-tour. Et faites confiance, Dieu est capable dans chacune de vos vies de vous transformer pour faire de vous des lumières de son amour complètes. Le matin, le midi et le soir. Quand vous vous levez, quand vous vous couchez, même si certains d'entre vous vous levez du mauvais pied. Ça, c'est des questions de caractère. Il y a des gens, ils se lèvent toujours à l'aise, toujours de bonne humeur. Il y en a d'autres, quand on se lève, s'il n'y a pas un coup de café et tout ce qu'il faut, l'humeur n'est pas très bonne. Ça existe. Mais on peut travailler avec ça devant Dieu pour qu'on ait une attitude positive, qu'on ait une attitude à la gloire de Dieu. Quand il y a quelque chose qui est du péché dans la vie des autres, on peut dénoncer le péché, mais sans violence, sans haine, et d'être des témoins de la vérité et de l'amour de Dieu dans ce monde. Donc on va terminer par un temps de prière d'une minute. Je vous invite à demander au Seigneur son esprit. Et la semaine prochaine, ça sera une prière pour chacun d'entre nous, que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Que l'Esprit Saint nous remplisse. Quelle est la première marque de la présence de l'Esprit Saint dans une vie ?
L'amour.
L'amour et la sainteté. L'amour et la sainteté. L'Esprit Saint. Des fois, les chrétiens, on a oublié la simplicité. On s'est dit, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies ? L'Esprit Saint vient pour la sainteté, pour nous convaincre de nos péchés. Et ça, on le voit dans l'épître de Romains. Et pourquoi est-ce qu'il nous convaincrait de nos péchés, l'Esprit Saint ? S'en détourner. Est-ce qu'il viendrait pour nous convaincre du péché, pour nous montrer qu'on est nul, et puis après il nous laisse dans nos péchés ?
Non.
Il vient pour nous purifier. Purifier, on dit aussi sanctifier, pour qu'on soit vraiment plein d'amour. Et ça, on peut y arriver seulement ensemble. Et c'est mon encouragement pour vous, pour cette semaine. Regardez à Dieu. Et demandez à Dieu de vous montrer s'il y a des pensées qui ne sont pas à son honneur, s'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas à son honneur, et qu'il vous purifie. Et d'avoir confiance que Dieu est capable de vous rendre saint pour que vos pensées du matin au soir et même pendant la nuit soient à sa gloire. J'ai bien dit même pendant la nuit. Certaines personnes diront ouais, c'est des rêves. Je vais vous dire une chose. Vos rêves peuvent être transformés par Dieu. Et si, en anglais, on parlait, il y a une expression qui dit garbage in, garbage out. Si vous faites entrer de la cochonnerie dans votre cerveau, des films impurs, des pensées impures, des images impures, des paroles impures, ne soyez pas surpris que ça ressorte. Si vous nourrissez votre cœur de choses impures, eh bien ça ressortira aussi dans vos rêves. Mais si vous nourrissez vos cœurs de l'amour de Dieu, je ne suis pas en train de vous dire n'allez plus avec les gens dans le monde. Je suis en train de vous dire, quand vous avez des choix, n'allez pas regarder par exemple une émission où il y a des trucs tordus. N'allez pas allumer la TV quand vous savez qu'il y a des choses pourries, des publicités. Moi, je ne vais pas allumer M6, par exemple, quand j'étais en France. Je me suis vite rendu compte que M6, c'était toujours le dimanche soir, on ne regarde pas M6. Vous n'aurez que des pubs porno ou des trucs tordus. Donc, et si vous faites ça, ne soyez pas surpris qu'après, il y ait de la pourriture dans vos cœurs. Et vous allez vous dire, oh ben, c'est marrant, je ne grandis pas spirituellement. Ben oui, c'est sûr. Hein. Si on a de l'impureté dans le cœur et qu'elle ressort, c'est logique. Donc, je vous invite, demandez à Dieu, est-ce qu'il y a des choses qui sont impures dans vos vies? Est-ce qu'il y a des pensées impures? De remettre à Dieu, et Dieu est capable de purifier votre cœur si vous êtes fidèle à lui, et si vous lui faites confiance pour que tout ce qu'il y a en vous soit à sa gloire, soit saint et droit. On va finir par un temps de prière, on va s'asseoir ensemble. Je vous invite à prier en silence, et on va finir ensuite, je prierai avec tout le monde. Seigneur, nous te remettons ce temps, cette simple minute, parce que le but des prédications, Seigneur, ce n'est pas de seulement d'enseigner, mais d'inviter chacun d'entre nous à répondre à ta parole. C'est ta parole que nous prêchons ici, et c'est à ta parole que nous voulons répondre. Guide chacun de mes frères et sœurs à sonder leur cœur. Pas regarder au cœur des autres, on ne peut pas regarder le cœur des autres, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de regarder notre cœur et d'évaluer avec toi, avec la puissance de ton amour, avec la grâce de ton esprit où nous en sommes. Nous t'offrons cette minute, Seigneur. Guide-nous, aide-nous à voir s'il y a des choses que tu veux nous enseigner par rapport à ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toute ta vie a été pure. Tu as pu aller dans n'importe quel lieu, tu as pu aller même sur la croix et tu es resté pur. Ton cœur n'a jamais été amer. Quand on t'insultait, tu n'as pas répondu à l'insulte par l'insulte, mais tu as fini ta vie en disant « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Enseigne-nous, Seigneur. Prépare-nous cette semaine aussi à célébrer la Pentecôte, la venue de ton esprit dans nos cœurs. Parce que tu veux nous transformer, tu veux vraiment qu'on soit des lumières de ton amour et de ta vérité dans ce monde. Prépare-nous par la prière, par le jeûne, pour ceux qui le souhaitent. Et que nous puissions, Seigneur, nous préparer à t'accueillir, à se réjouir de ton amour, de ta vérité, de ta sainteté dans nos vies. C'est pas par nos forces qu'on peut être saint, c'est par ton amour et par notre humilité quand nous recevons ton esprit et que nous le laissons guider nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom et aie pitié de nous, Seigneur. Amen.